Elle n'a pas peur de s'engager dans les pistes noires les plus tortueuses pour vous livrer chaque semaine l'actualité scientifique la plus fraîche. Les deux pieds dans la poudreuse, c'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences.
C'est
bonjour
moi.
Zoé.
Bonjour.
Le Journal des Sciences.
Et on commence par les plus anciennes peintures rupestres connues qui ont été créées vraisemblablement par des Néandertaliens plus de 20 000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne, de Homo sapiens en Europe. C'est en tout cas ce qu'avance aujourd'hui un article qui a été publié hier dans la revue Science.
Effectivement, article très commenté puisque juste ici, la capacité à produire de l'art était l'un des derniers points qui semblait distinguer Homo sapiens, les humains modernes, des Néandertaliens qui ont disparu il y a 35 000 ans, mais dont on ne cesse de réévaluer notamment les capacités cognitives réalisées aux pigments rouges et noirs sur les parois de trois grottes espagnoles à La Piacega dans le nord-est du pays, à Maltravesio dans l'ouest et à Ardales dans le sud, donc trois grottes très distinctes. Ces peintures représentent des groupes d'animaux, des empreintes de mains, des points, des cercles et autres motifs géométriques. Mais évidemment, la thèse de l'article a des adversaires. Ils remettent notamment en cause la méthode de datation très novatrice utilisée dans cet article, dite de l'uranium-thorium, qui date en fait les croûtes de carbonate qui recouvrent les pigments en se basant sur la radioactivité restante d'isotopes d'uranium dans le thorium. Alors j'ai demandé à la préhistorienne Marilène Patou-Matisse, directrice de recherche au CNRS, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé Néandertal de A à Z, comment elle accueillait cet article et évidemment les débats qu'il suscite.
La publication de Nature est vraiment très intéressante puisque les auteurs ont analysé des résultats dans trois grottes. Donc ça c'est important, c'est pas une seule grotte. Ils ont fait des analyses qui me paraissent quand même intéressantes sur à base de datation uranium-thorium. Bon, même si on peut parfois discuter sur cette méthode, mais elle est quand même très très souvent fiable. Je crois qu'il n'y a pas d'argument qui puisse dire non, c'est impossible. Je resterai modeste, je ne suis pas géochronologue, mais ce qui me paraît toujours un peu surprenant, c'est qu'on se pose cette question quand on a des résultats qui montrent qu'on est dans la période des Néandertaliens. Comme si, pour beaucoup, on ne peut pas admettre que les Néandertaliens aient pu faire des choses qui relèvent du symbolique, qui relèvent peut-être de l'esthétique. On aurait trouvé des âges typiquement sapiens, si j'ose dire, hein, des 23, 25. On n'aurait pas autant débattu sur la validité. Vous voyez ? Et moi, je crois qu'il faut attendre de nouvelles études, qu'il faut attendre d'autres grottes. Je pense qu'on va avoir des surprises, hein, parce qu'il y a beaucoup de grottes qui n'étaient pas datées, évidemment, pour confirmer tout ça. Mais il y avait déjà des prémices. À El Castillo, il y a un point rouge qui, là aussi, daterait donc la période des Néandertaliens. Il y a eu la célèbre découverte aussi de la grotte de Bruniquel. Donc dans le Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire que là, le monde souterrain était connu des Néandertaliens. Donc soyons ouverts, moi je ne dis pas que c'est sûr, mais je dis en tout cas que l'hypothèse du peut-être est renforcée par ces nouvelles analyses et ces nouvelles données.
Voilà, et puis je vous renvoie à l'émission que nous consacrions ici même lundi dernier au récit originel, hein, précisément avec chaque nouvelle découverte qui nous réengage, qui engage les paléoanthropologues à réécrire ce récit du départ. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de notre compte @laméthodefc. En bref, Zoé, il n'y a plus de chevaux sauvages sur Terre.
Oui, c'est l'une des conclusions qu'on peut tirer d'une passionnante étude parue cette semaine. Les auteurs ont séquencé le génome de restes de chevaux de bétail et de crasse-niards, vieux de 5500 ans. C'est les premiers chevaux à avoir été domestiqués au Kazakhstan à cette date-là. Et surprise, leurs seuls descendants directs encore aujourd'hui présents sont les chevaux de Przewalski, considérés jusqu'ici comme les derniers chevaux sauvages qui existaient. Cela aussi veut dire que les chevaux de bétail domestiqués dans un premier temps ont sans doute été relâchés ensuite et qu'un second épisode de domestication a eu lieu dans l'histoire qui mène à toutes les races actuelles. Reste à trouver maintenant quand et où.
Et notre deuxième sujet cette semaine, c'est un sujet qui concerne cet astronome amateur en Argentine qui a observé en direct et dès ses débuts la naissance d'une supernova. Des données évidemment exceptionnelles qui ont orienté tous les télescopes professionnels du monde pour mieux observer ce phénomène en direct.
Alors quand on sait qu'il ne se produit qu'une supernova en moyenne par siècle dans une galaxie, que le flash lumineux initial dure environ une heure, qu'il faut pour l'observer un ciel limpide, on estime que la probabilité pour qu'un astronome amateur la détecte est d'environ 1%. sur 100 millions. Et c'est ce qui s'est produit le 20 septembre 2016 pour Victor Bousseau, qui est donc un astronome amateur, qui remarque qu'un point faible est apparu dans la constellation australe du sculpteur. Il prévient évidemment tout de suite la communauté scientifique, mais prend aussi, et c'est ça qui est important, lui-même des données qui sont les plus précoces et les plus précises qu'on ait à ce jour sur une supernova et qui ont permis à des dizaines de scientifiques de valider, de tester en tout cas, différents modèles théoriques. C'est ce que m'expliquait Federico Garcia, c'est l'un des co-auteurs de cette étude. Il est argentin, il travaille aujourd'hui au laboratoire d'astrophysique de l'université Paris Diderot et il connaît personnellement depuis son adolescence cet astronome amateur Victor Bousseau.
C'est un homme d'une cinquantaine d'années, il est technicien mécanicien, il est astronome amateur depuis 20 ans et il a son propre observatoire sur son toit avec un télescope de 40 cm équipé d'une caméra et de filtres. Il cherche depuis longtemps à observer des supernovas. Pour cela, il suffit de pointer son télescope sur une galaxie et de voir si un objet apparaît qui n'était pas présent sur le catalogue. Donc il a eu de la chance, mais il savait très bien ce qu'il faisait, ce qui lui a permis de donner l'alerte très vite. Mais surtout, il a vraiment pu suivre la supernova au moment même où elle explosait, ce qui correspond à un laps de temps très court mais crucial qui dure à peu près 2 heures. Donc, on a des images où on ne voit pas encore la supernova et on la voit progressivement apparaître. Il a pu prendre des images toutes les 20 secondes pendant 1 heure. Ce sont des données inestimables. C'est incroyable car généralement, avec les données automatiques de nos grands télescopes, on a des images, mais on en a une ou deux à de longs intervalles. Or ici, on a pu mesurer la photométrie et voir la luminosité de la supernova doubler en moins de 20 minutes à une longueur d'onde optique d'environ 40 grandeurs par jour, ce qui est énorme.
Et puis une autre surprise, dans l'espace Zoé, la galaxie d'Andromède serait plus jeune que la Terre.
Oui, appelée aussi M31, Andromède est notre voisine, on pensait la connaître très bien, mais une étude publiée dans la revue MNRAS indique qu'elle se serait formée il y a moins de 3 milliards d'années seulement, donc à une époque où la Terre existait déjà, et qu'elle serait le résultat de la collision de deux galaxies. Mais bien sûr, vous nous en direz plus mardi prochain, Nicolas.
Et dans 10 jours exactement, effectivement, on consacrera notre émission du mardi à cette galaxie d'Andromède et à ce que l'on en sait et ce qu'il reste à en découvrir. Et toujours à nos nouveaux sujets, mais c'est un journal des sciences extrêmement riche avec 3 sujets cette semaine. Une première européenne, Zoé, une chirurgie assistée par robot sur une tumeur ORL qui a été réalisée à l'Institut Gustave Roussy à Paris.
Et c'est en couplant deux techniques de pointe dites mini-invasives, le robot chirurgical d'Invasti X et l'endoscopie, que les chirurgiens de Gustave Roussy ont pu enlever une tumeur située dans le rhinopharynx d'un jeune homme de 28 ans. C'est une première européenne qui est très emblématique de ce que pourra devenir sans doute la chirurgie de demain. C'est ce que m'expliquait hier l'un des chirurgiens qui a réalisé cette opération, le docteur Antoine Moyaplana.
C'est une première européenne dans le sens où la tumeur où elle était placée était en fait à la frontière de ce qu'on peut faire par voie endonasale et à la frontière de ce qu'on peut faire par voie endobuccale. C'est-à-dire que la zone où elle était placée, c'est-à-dire l'arrière du nez qu'on appelle le rhinopharynx, l'extension de la tumeur, on pouvait avoir facilement la partie supérieure en fait en faisant une chirurgie endoscopique endonasale, mais la tumeur descendait trop bas pour qu'on puisse l'atteindre de manière exhaustive et dans de bonnes conditions par le nez. Et donc l'intérêt du robot, c'est une méthode qu'on n'avait pas avant, c'est de pouvoir passer par la bouche et remonter vers le nez en passant derrière le voile du palais pour pouvoir attraper le prolongement inférieur de la tumeur. Donc le robot, en fait, il a des bras articulés qui vont pouvoir avoir différents instruments, des pinces, des ciseaux, des bistouris électriques, etc. Et on a un optique qui donne une visualisation 3 dimensions et en haute définition de la zone opératoire. Et donc ce robot, il est placé de part et d'autre du patient ou au-dessus du patient et on pour le piloter, entre guillemets, il y a une console qui ressemble un peu à une console vidéo. Le chirurgien va pouvoir le piloter en voyant exactement en 3 dimensions le champ opératoire. Le fait de pouvoir combiner à la fois cette chirurgie endoscopique et cette chirurgie robotique, ça n'avait jamais été fait et ça nous a permis en fait de retirer la totalité de la tumeur en un seul bloc et d'avoir des suites post-opératoires tout à fait simples.
En bref, pour la première fois, une femme trans a pu allaiter Zoé.
Une étude scientifique américaine publiée en janvier décrit comment une femme transgenre américaine de 30 ans, assignée homme à la naissance donc, a pu allaiter son enfant adopté. Pour cela, elle a pris du stradiol et de la progestérone, deux hormones féminines, et utilisé un tire-lait 5 minutes, 3 fois par jour, pendant 3 mois avant la naissance de son enfant. Et elle a pu l'allaiter exclusivement pendant 6 semaines. Les auteurs affirment néanmoins que d'autres recherches doivent être conduites afin de déterminer si le lait est nourrissant et sûr pour les bébés.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, des chercheurs de l'université de Stanford ont réussi à créer les premiers embryons chimères homme-mouton.
Et oui, l'année dernière déjà, des chercheurs du Salk Institute avaient réussi à réaliser des embryons chimères homme-porc. Alors, c'est très sérieux parce que dans les deux cas, il s'agit de développer des organismes dotés d'organes humanisés, hein, des foies, des reins, des pancréas, qui pourraient servir de réserve de greffons parce qu'on manque évidemment d'organes. Alors si la tentative du Salk Institute n'avait pas permis d'obtenir un organe complet, puisqu'ensuite il faut réinjecter ces embryons dans un animal, et bien là les recherches de l'université de Stanford s'annoncent beaucoup plus prometteuses puisque la fécondation in vitro et la réimplantation des œufs est plus facile chez le mouton que chez le porc. C'est une information, mais tout ça est très sérieux, Nicolas.
Il n'y a pas de mais... Pardon.
Bon, elle était si facile.
Elle était tellement facile, j'ai un peu honte, j'ai un peu chaud.